Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
20h31, le retour de Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être là, très belle soirée. Bonnes vacances, d'ailleurs, si vous avez la chance de pouvoir en profiter. Et merci d'être là, même pendant vos vacances. Fred Krebs est avec nous ce soir, Michel Lévy-Provençal et Enguerrand Renaud pour commenter l'actualité. Avant d'enchaîner sur l'Union européenne, j'aimerais qu'on termine ce sujet sur Nvidia et Jensen Yang, donc qui est le fondateur, donc on le disait, de Nvidia, qu'on connaît, hein, qui est hyper médiatisé avec sa belle veste en cuir lorsqu'il monte sur scène pour ses keynotes. C'est vrai qu'il est un petit peu dans la tourmente en ce moment, avec justement cette bataille sino-américaine. Alors évidemment, il y a les droits de douane, et puis aussi Jensen Yang. Rappelons qu'Nvidia est une boîte américaine, ouais, mais qui a énormément de comment dirais-je, d'ADN commun avec l'Asie. On est d'accord.
Oui, oui, ah bah, effectivement, voilà. c'est une faiblesse. Donc les fonderies, comme on appelle, la fabrication.
Tout est fabriqué à Taïwan.
Tout est fabriqué à Taïwan. Ça c'est une première chose. Le marché, alors le marché chinois, c'est moins de 15%, c'est 13%. Donc c'est pas gigantesque, mais enfin c'est extrêmement important. Effectivement, on l'a vu, DeepSeek, c'est-à-dire que on a vu deux choses. Quand la Chine est entravée, elle trouve toujours une solution de roche.
Bien sûr.
On l'a vu avec Huawei, à qui on a tout interdit, oui, et qui en 3 ans a réussi à tout reconstruire, oui, des chips jusque au navigateur et à l'operating system. On le voit avec DeepSeek, c'est entravé, ils n'ont pas le droit aux meilleurs chips, et ils arrivent à faire un LLM qui est équivalent, on va peut-être un peu moins, mais enfin équivalent à ce qui se fait de mieux aux États-Unis. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on essaye de les entraver, ils trouvent le contournement.
Et on dirait que même ça les stimule.
C'est dingue. Ils vont beaucoup plus vite, ça les stimule. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ces règles, ou encore, est-ce que c'est intelligent de poser des règles qui, de toute façon, vont finalement stimuler la créativité chinoise? C'est une question qu'on peut se poser.
Mais t'as raison, parce que, en fait, quelque part, ça me rappelle la guerre froide des années 60-70, hein. Il y a une muraille de fer qui s'est abattue, en tout cas, Trump, l'administration de Trump veut mettre en place une muraille de fer pour affaiblir l'Asie, la Chine en particulier. L'Europe, c'est même presque pas un sujet parce qu'on en parle,
pas un sujet.
Ils en parlent quasiment pas. Mais la chose vraiment importante ici, c'est qu'il va y avoir une sorte de découplage technologique. C'est-à-dire que chaque grande plaque économique va avoir leur propre technologie. Et en fait, ce que Trump va réussir à faire, c'est simplement, il va stimuler les dizaines de milliers, les centaines de milliers d'ingénieurs chinois pour sortir plus vite que possible des nouvelles chips, des nouveaux algorithmes qui vont, en tout cas, remplacer. Vous savez qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle de Nvidia, elle repose principalement sur un algorithme de fonderie, hein, qui s'appelle CUDA, et c'est ça qui va être obligatoire pour les Chinois à retravailler, à réinventer, pour pouvoir être au niveau de Nvidia, au niveau de leur puce. Et donc tout ça, c'est un découplage qu'on va observer. Moi, ce que je note quand même, c'est que derrière tout ça, on ne parle pas de l'Europe, et parce qu'on est déjà très 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 en retard par rapport, en tout cas, à ces deux grands. Est-ce qu'on va pouvoir les rattraper?
Mais dans ce que dit Fred, le risque, c'est effectivement, s'il y a deux marchés, le marché américain et chinois, c'est quid du reste du monde? Qui est-ce qui va conquérir le reste du monde? Est-ce que c'est la technologie chinoise ou américaine?
On a une vision quand même qui est très centrée sur l'Occident. Parce que en s'écoutant, on a l'impression que la Chine réagit aux États-Unis en sortant leur modèle. Mais il ne faut pas se tromper. En fait, les Chinois travaillent probablement en même temps que les Américains, ou peut-être même avant, sur des LLM, sur des robots et en robotique humanoïde.
Oui,
oui. On a aperçu quelques éléments qui nous montrent qu'ils sont très en avance.
On va parler d'automobile et de stockage d'énergie dans quelques minutes.
Et en réalité, ils n'ont pas du tout la même stratégie que les Américains. Les Américains font énormément de bruit, communiquent énormément à chaque fois qu'il y a quelque chose. Les Chinois, pas du tout. Ils travaillent en vase clos. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le fait que les Chinois n'auraient pas accès à la technologie. En fait, on a vu, hein, des observateurs très fins se sont rendus compte à quel point les Chinois bypassent complètement les procédures. Par exemple, en Malaisie, ils ont accès à des data centers.
Bien sûr.
En achetant, en faisant investir en Malaisie pour pouvoir accéder à des data centers, ça intéresse tout le monde d'ailleurs. Nvidia est très content, ils vendent leurs puces.
Évidemment.
Les investisseurs arrivent à investir en Malaisie et vendent à prix fort aux Chinois.
C'est l'accès. Un peu le marché noir de la puce.
Oui, c'est complètement le marché noir de la puce.
C'est un peu
donc,
ça.
Donc les Chinois sont loin d'être suiveurs. On ne sait pas où ils en sont aujourd'hui, pour être très honnête. On ne sait pas du tout. Et de temps en temps, on aperçoit un DeepSeek, on aperçoit un robot humanoïde.
Ouais.
On va voir comment ça va se passer dans les mois qui
viennent. C'est intéressant ce que tu dis, qui, finalement, il est quasi impossible d'empêcher l'accès à la technologie,
oui,
en fait,
c'est
à quiconque.
C'est impossible.
À quiconque.
C'est impossible.
Aujourd'hui,
c'est
tu disais, tout est dans le cloud, finalement. Et,
non, mais
voilà.
C'est pour ça que les mesures conservatoires...
Ouais,
c'est limite ridicule.
Oui, c'est d'un autre âge, finalement.
On peut le contourner extrait. Et effectivement, trouver des puces H100 et H200
évidemment
sur la planète, ça ne doit pas être très compliqué. Hein. Faut pas être agent OSS 117. Hein. Ça doit être extrêmement simple.
Ça me fait un peu penser, vous savez, à l'embargo en Russie concernant Apple. Mais en fait, en passant par, je crois que c'est les Émirats arabes, en fait, on a accès à tous les produits Apple qu'on veut. Enfin, les Russes ont accès à tous les produits Apple qu'ils veulent, finalement. Et ils vont peut-être les payer un petit peu plus cher.
Oui.
Mais voilà.
Ça arrange tout le monde.
Et peut-être un dernier point sur ce sujet, hein, c'est qu'il y a une petite musique là depuis quelques jours où Nvidia commence à distiller l'info. Hein, vous savez que la prochaine publication en fait de leur premier trimestre, hein, des résultats du premier trimestre, a lieu au mois de mai.
Et ils vont perdre.
Et ils annonceraient qu'ils seraient en perte sur le premier trimestre.
Ah oui.
Non. Que ça leur coûterait en impairment 5,5 milliards.
5,5 milliards.
Alors effectivement,
ouais,
ça peut peut-être mettre les comptes en...
Mais ce que je comprends pas, c'est quoi ces 5 milliards et demi qu'ils perdent? Ils perdent parce qu'ils ne les vendent, ils vendent pas leurs chips aux États-Unis, aux Chinois, c'est ça?
Alors,
c'est ça, c'est 5 milliards.
Parce que j'ai compris, c'est la licence, non?
C'est de l'impairment. Et de l'impairment, on peut mettre à peu près tout. Ça peut être, on peut dire, voilà, on estime que dans nos comptes, le manque à gagner sur la licence.
Non, mais je comprends pas, parce que, en fait, ils fabriquent pas assez de puces pour tout le monde. Donc finalement, toutes ces puces qu'ils ne peuvent pas vendre à la Chine, ils vont bien trouver des clients qui vont vouloir les acheter en Occident.
Ce sont pas les mêmes puces, c'est les H20.
Les H20 ne sont plus intéressantes, on va dire, pour l'Occident, c'est ça?
Elles sont beaucoup moins intéressantes que les H100. Ouais.
Ah, c'est peut-être ça, alors.
Ta question est intéressante parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils mettent dans ces pertes anticipées. D'accord?
On ne sait pas ce qu'ils mettent. C'est un peu flou.
Ouais. Ça peut être de la restructuration, ça peut être à peu près tout. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Et on le verra, ça sera détaillé comme dans les comptes. Mais ce qui est intéressant, c'est la petite musique. On prépare le marché. C'est intéressant, ça. Mmh. On prépare le marché. Parce qu'avant, c'est le marché. C'était sain, Nvidia. Enfin, tu en parlais souvent. Nvidia, la plus grande boîte.
On était à 3 000 milliards de capitalisation.
On était à 3 000 milliards de capitalisation. Ça a perdu 30% depuis janvier. Et 40% depuis le plus haut.
Ouais, incroyable. Alors évidemment, lié à tout ça, il y a l'Europe. On ne parle pas beaucoup de l'Europe dans tout ça. Hein. C'est un peu triste. Hein. Et quand on parle de l'Europe... Bah, c'est parce qu'on régule, parce que on inflige des amendes, etc., etc. Alors bon, heureusement, on a des bonnes nouvelles de temps en temps. On en parlera tout à l'heure avec Michel Paulin et le cofondateur de Candela qui seront avec nous sur le plateau. Il y a des initiatives, notamment en termes d'informatique quantique, etc. Mais bon, là, l'UE, devait annoncer le 15 avril dernier, les mauvaises notes aux grandes boîtes américaines qui étaient susceptibles d'avoir des amendes. Et ben cette date du 15 avril a été reportée sine die parce que le contexte on va dire géopolitique aujourd'hui n'est plus en faveur de donner des amendes en fait, en tout cas d'infliger des amendes aux géants américains.
Ils sont en pleine négociation sur les droits de douane. Donc, à un moment donné, les Européens essaient de montrer patte blanche. En tout cas, essaient de montrer qu'ils sont constructifs. Mélanie a essayé de faire son charme sans pour autant avoir le mandat européen, d'ailleurs. Hein, mais elle a quand même prétendu un peu dans son discours avec Trump qu'elle représentait un peu l'Europe.
Bon, c'est ça, la question.
La vraie question, c'est de savoir si on va vivre la fin du DMA et du DSA. Soyons un peu radicaux. Est-ce qu'on va voir la fin, littéralement, de la politique européenne en matière de régulation sur les techs avec ce coup de massue de la négo avec Trump?
Oui, parce que si plus personne ne respecte le DMA et le DSA,
mais bien sûr, il meurt.
Ça n'a pas de sens.
Bah en fait, c'est un coup porté à la crédibilité européenne.
Et bien sûr, on est d'accord.
En quoi, si jamais du jour au lendemain, l'Europe décide comme ça, de dire bon, en fait, on postpone, en réalité, vous n'êtes plus du tout crédible.
Ben non.
Donc, il n'y a plus de pression, donc c'est terminé. De fait, c'est terminé. Ou alors, est-ce que c'est juste temporaire, le temps des conversations, et ensuite ils vont remettre sur la table, en effet, ces régulations-là.
Oui, parce que le calendrier est plutôt dans la. On va dire, on est plutôt dans une période d'attentisme là, où on attend de voir comment l'Europe et les États-Unis vont s'entendre au niveau des droits de douane, je crois. Enfin, il y a toujours tous ces sujets-là.
Il y a trois sujets. Il y a les droits de douane, effectivement. Il y a ce qu'on avait évoqué, mais on n'en parle plus. Hein, la taxation.
Oui, la taxation des GAFA, t'as raison.
Des GAFA, enfin du moins des flux de services, puisque les Américains nous taxent les flux de biens, nous avons taxé les flux de services. On l'a évoqué 15 jours, il n'y a plus rien, puisque effectivement il faudrait une décision quasi à l'unanimité, et bien entendu l'Irlande, le Luxembourg et peut-être l'Italie vont s'y opposer, donc. C'est pas évident. Et au milieu de tout ce maelstrom, effectivement, à mon avis, on décale. Parce que ce que tu dis est tout à fait vrai. C'est-à-dire que si on renonce maintenant, alors que ça fait un an et demi que c'est mis en activité, si on renonce maintenant, c'est fini. C'est fini pour tout le reste. Donc, parce qu'on n'a pas la technologie et on n'a pas la régulation. Ça serait quand même assez dur. Donc, mon avis, c'est temporaire. Mais aujourd'hui, on négocie les droits de douane sur les biens physiques. On négocie une éventuelle taxation sur les services. Et derrière, effectivement, on négocie le respect de la nouvelle régulation DSA, DMA, mais bientôt IA-ACT et tout ce que l'Europe a produit de mieux, c'est-à-dire des textes de régulation.
C'est pas forcément. Oui, c'est ça. C'est ironique. Je suis en effet d'accord. On pourra revenir sur le partage de la valeur apportée par le bloc chinois, le bloc américain et le bloc européen, mais très rapidement. En fait, les Américains ont récupéré le software, hein, sont les champions du software. Les Chinois ont récupéré le hardware d'une certaine manière. Nous, on a récupéré la régulation, mais. En réalité, on aurait pu récupérer les infrastructures énergétiques. L'Europe est très forte en matière d'infrastructures énergétiques. En nucléaire,
notamment la France.
Mais attends, l'Espagne, sur le renouvelable, que ce soit l'éolien ou le solaire.
L'Allemagne, c'est un peu moins.
Non, L'Allemagne, ils ont complètement merdé sur l'infrastructure énergétique. Mais tout de même, il y a quand même la France, il y a quand même l'Espagne, il y a quand même un certain nombre de pays qui sont très forts en matière d'infrastructure énergétique. On a cette carte à jouer dans ce triptyque hardware, software, infra-énergétique, mais on régule. Il faudrait peut-être arrêter.
Fred.
Alors, il ne faut pas oublier que maintenant que Trump est tombé sur toute l'intelligence et les cerveaux américains, il y aura peut-être un afflux de nouveaux cerveaux qui vont venir, comme le souhaiterait le président Macron.
Il faudra les payer, par contre.
Alors, je crois qu'ils ont trouvé des poches un peu d'argent pour essayer de payer tous ces gens-là. Mais effectivement, on pourrait faire en sorte que l'Europe soit le nouveau paradis des chercheurs, des scientifiques qui pourraient recréer quelque chose à partir de ça. Moi, j'y crois. Enfin, en tout cas, j'ai envie d'y croire. Je me bats pour ça tous les jours. Donc, j'espère qu'on arrivera quand même à tirer notre épingle du jeu in fine.
Parce qu'on parle d'amendes, mais c'est des montants colossaux. C'est des dizaines de milliards.
Mais pas tant que
Apple, 13 milliards. Ouais. Google, je crois que c'est 2,5 milliards. Enfin, c'est des sommes qui sont monstrueuses.
Mais François, en fait, en vrai, c'est pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que 13 milliards chez Google, ça représente pas grand-chose. Toutes ces amendes, hein, que ce soit chez Meta, chez Google, même chez Amazon, ça, c'est presque inclus dans leur modèle économique. C'est inclus dans leur coût d'exploitation.
Ouais, mais bon, celui qui la paye pas, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, même, mais parce
même,
que
même. S'il paye 13 milliards, c'est 13 milliards quand même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, évidemment, à l'échelle d'Apple, c'est pas grand-chose. Mais bon. Quand tu signes le chèque, ça fait mal quand même, tu vois. Et puis peut-être tu remettras pas tout de suite le doigt dans le pot de confiture. T'attendras un petit peu, tu vois.
Écoute, c'est un montant que, souvenez-vous, Apple, on lui a demandé 12 milliards, donc c'est à peu près un montant similaire. On lui a demandé qu'il rembourse l'Irlande de 12 milliards parce qu'il y avait un avantage fiscal. Il y avait un avantage fiscal. L'Irlande avait refusé qu'on lui paye.
Bien sûr.
Donc finalement, ils ont été payés. Mais ce que je veux dire, Fred a raison, c'est dans le modèle économique, il y a tellement de marge qu'effectivement, si derrière on peut, c'est comme si j'allais très très vite en voiture et que je savais que j'aurais une amende, mais que je l'avais déjà prévu, quoi. Donc je pense qu'effectivement, c'est pas ce qui leur fait le plus peur.
Ok, bon, là encore, on verra combien de temps cette période un petit peu de flottement dure, mais ça va être intéressant de suivre ça, évidemment, et vous pouvez compter sur nous, bien évidemment, pour surveiller tout cela. Frédéric, toujours avec nous, Michel Lévy-Provençal, Enguerrand-Renault, on change carrément de sujet, on repart en Chine pour évoquer, en fait, l'avance technologique que sont en train de prendre nos amis chinois concernant l'automobile, et notamment l'automobile électrique, avec deux sujets qui sont intéressants. CATL, est-ce que vous connaissez le chinois CATL?
Fabricant de batteries.
Ouais.
Fabricant de batteries. Il faut savoir qu'il y a un grand salon dédié à l'automobile qui va bientôt ouvrir ses portes. Ça sera du 23, donc à partir de demain jusqu'au 2 mai, c'est le salon de Shanghai. Et CATL va en profiter pour annoncer pas mal de choses intéressantes, notamment une nouvelle technologie de batterie qui nous permet d'avoir au moins 1000 km d'autonomie pour des véhicules, ce qui est quand même assez confortable. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir 1000 km d'autonomie. Hein. Je crois que c'est même pas possible, en fait. On arrive peut-être à 800, 900 km. La CATL dit maintenant, nous, on arrive à le faire. Et aussi, la recharge ultra rapide, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, vous buvez un café et vous récupérez plus de 500 km d'autonomie.
Parce qu'il y a une nouvelle technologie, alors qui n'est pas encore totalement... Elle est encore dans les cartons. Et BYD avait fait cette annonce, exactement la même.
Avec moins d'autonomie. On était à 400, je crois, kilomètres, là on est à 500.
Mais là, il passe sur une nouvelle technologie qu'on appelle les solid state, les batteries solid state. C'est-à-dire, alors, on n'est plus sur une électricité liquide, mais solide, voilà. C'est du silicium ou de la céramique. Bon, c'est une nouvelle technologie. Alors, BYD.
C'est très prometteuse et qu'on entend.
Est extrêmement prometteuse.
Ça fait un moment qu'on en entend parler.
Elle est beaucoup plus sécurisée. Deux, elle permet une plus grande autonomie. Et trois, ça se recharge. Sauf que BYD avait eu, l'honnêteté de dire, c'est pas avant 2027. CALT, dans son annonce, j'ai pas entendu de date. Aujourd'hui, ça n'existe pas. De toute façon, là, il y a trois technologies dans les batteries, hein. Le lithium phosphore, LFP, d'accord. NMC, c'est le nickel, manganèse et cobalt. C'est deux technologies qui sont aujourd'hui les technologies qui sont dans les voitures, sont déjà détenues par les Chinois.
Oui.
D'accord. C'est-à-dire que les batteries qui sont dans les Tesla sont des batteries de technologie chinoise. Les batteries qui sont dans les Renault, dans les Peugeot, dans toutes les voitures sont des batteries chinoises. Et donc là, et c'est ce que disait Michel, là on a changé d'époque sur la mobilité, on passe dans l'électrique, sauf que les Chinois, ils ont commencé nettement avant. Et là, pour les rattraper, ça va être dire. Et pour maintenir cette avance, il multiplie les annonces des solid state. Aujourd'hui, il n'y a pas une gigafactory européenne. On a beaucoup parlé des gigafactories européennes. Alors, on a vu Northvolt qui a eu quand même des difficultés à tel point qu'ils sont en banqueroute. Il n'y a pas une gigafactory européenne qui est capable de faire du solid state. Et donc, on se dit que tous les investissements qu'on va faire aujourd'hui Est-ce que ça va être rentable? On ne sait pas.
Mais en fait, il y a un sujet aussi dont on ne parle pas, c'est que il faut une infrastructure électrique monumentale pour pouvoir alimenter ces batteries.
Mais d'ailleurs,
batterie, c'est un mégawatt qu'il faut fournir. Donc,
BYD expliquait qu'il fallait carrément refaire tout le réseau électrique pour acheminer autant de puissance sur les bornes.
Il y a le problème du réseau, mais il n'y a pas que le problème du réseau. Il y a le problème de la production énergétique. Je vous rappelle quand même que il faut les dernières estimations par rapport à l'évolution de l'usage de l'énergie du fait simplement de l'IA. Dans les 5 prochaines années, c'est l'équivalent de près de 90 centrales nucléaires à construire aux États-Unis. 90, vous vous rendez compte? Il y en a 50 en France. Hein. 90 centrales nucléaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si en plus on rajoute à ça toutes ces nouvelles batteries par la mobilité qui demandent une charge ultra rapide avec à chaque fois des bornes de 1 mégawatt, il en faut 1000 pour faire l'équivalent d'une centrale nucléaire. Donc vous avez 1000 recharges, une centrale nucléaire. Vous vous rendez compte de la problématique, sachant qu'une centrale nucléaire, ça ne se construit pas en 6 mois.
Ouais,
ça prend quand même quelques années à construire une centrale nucléaire. Donc il va y avoir à un moment donné un bottleneck dans cette course en avant.
Le gestionnaire du réseau en France, RTE quand même, on lui avait posé la question. Alors, il y a un vrai gros problème sur l'IA, ça c'est sûr. Sur la mobilité électrique, les recharges ne sont pas d'un gigawatt, sont 300 à
400. Un mégawatt.
300 à 400 et peut-être un peu plus effectivement kilowatts, mais RTE disait que ça serait entre 6 et peut-être même, si on va beaucoup plus loin, 10% de la consommation. Donc c'est beaucoup. C'est pas ça qui va faire tomber le
non mais
le
c'est réseau. Surtout non, mais les infrastructures, oui, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses qu'une borne de recharge puisse encaisser, si tu veux, autant de puissance d'un coup. Ouais. Et ça nécessite des travaux de génie civil. C'est un peu comme si tu devais retirer la fibre optique dans toutes les bourgades de France.
C'est le raccordement aujourd'hui.
Tu vois ce que je veux dire, c'est ça.
Le bottleneck aujourd'hui,
c'est le problème du raccordement.
C'est le problème du raccordement de ces stations à un réseau Enedis. Effectivement, quand on fait...
Et là, il faut creuser, il faut...
Oui, mais c'est intéressant parce que ta réaction, François, elle est symbolique. Parce que en fait, en Chine, tout est possible.
Oui, bien sûr.
C'est le pays, c'est presque la nouvelle Californie. Donc tous les travaux d'infrastructure qui seraient nécessaires pour que ce genre de technologie fonctionne, ils vont pouvoir se le permettre. Et de toute façon, ils feront l'effort qu'il faut pour refaire ce qu'ils ont déjà fait dans leur réseau. Ils pourront le refaire de toute façon. Il n'y a pas de souci. Et donc c'est pour ça que moi, ma crainte, c'est que nous, en ayant étant une vieille nation, étant en tout cas un continent qui est un peu vieillissant, on s'interdise de penser ça va être possible. Parce que, en tout cas, la Chine, elle va prendre en tout cas ce pari, ça c'est sûr. Les États-Unis, pour le coup, je ne suis pas complètement sûr. Trump est parti sur un trip...
Et puis ils ont une production énergétique qui est beaucoup plus fragile.
Exactement, ils sont repartis sur le charbon. Trump,
le charbon et le pétrole.
C'est le mix énergétique.
Ouais.
C'est ça, parce que effectivement, produire de l'électricité en France, et tu as absolument raison, c'est-à-dire qu'on pourrait être une vraie plateforme de production d'énergie, parce qu'elle est décarbonée. C'est du nucléaire plus des énergies renouvelables. On est à 70% de nucléaire et 12% d'énergie renouvelable, donc on est quand même décarboné à 80%. Et quelques pourcents. La Chine, le mix, c'est encore charbon. Et les États-Unis, le mix, c'est encore... c'est carboné à 80% aussi, charbon et pétrole. Donc, il y a deux questions. Il y a la quantité d'électricité qu'il faut produire, et ça, on est assez bien armé. Mais il y a surtout le mixte. Parce que faire rouler des voitures électriques avec de l'électricité qui est carbonée,
ça perd du sens, c'est absurde. Évidemment.
Donc il va falloir résoudre ces deux problèmes.
Ouais.
Alors attention, la dynamique du mix énergétique chinois est en train de changer. Hein.
Oui.
On parle beaucoup effectivement du charbon et effectivement ça reste encore le premier pays.
Mais ils sont en train de pivoter.
Oui. Hein. Mais pour une raison très simple, c'est que l'État investit massivement.
Oui, exactement.
C'est-à-dire qu'il y a il y a presque un dumping par rapport au reste du marché parce qu'ils ont fait le choix d'un investissement massif, de casser complètement les prix et de pouvoir avoir une infrastructure très rapidement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, Frédéric, sur le fait que les Chinois vont se donner les moyens. Mais je pensais surtout à l'utilisation de cette technologie dans le reste du monde. Avoir aujourd'hui une voiture BYD qui se charge en 5 minutes, en France, ça ne te servira à rien.
Non.
Tu n'auras pas du tout l'infrastructure. Et aussi aux États-Unis. Donc, à un moment donné, il y aura un bottleneck pour le scale en fait, de cette technologie dans le reste du monde, du fait de l'infrastructure.
Alors, autre actualité liée à tout ça, c'est cette association assez improbable, voire insolite, entre BYD, qu'on évoque tout à l'heure, géant du véhicule électrique. Alors, ils font pas que de l'électrique, hein, BYD aux États-Unis, en Chine. Ils font aussi de l'hybride rechargeable. Donc, mix thermique, électrique. C'est cette association entre BYD et Aramco. Alors, Aramco, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est le plus gros producteur de pétrole au monde, qui a décidé, eh bien, de réfléchir à l'avenir, en fait, de la voiture, et de la voiture décarbonée. Parce qu'évidemment, Aramco, ils vont pas se tirer une balle dans le pied, ils fabriquent du pétrole, ils vont pas se dire, on va investir tout sur l'électrique. Mais ils essaient d'imaginer des carburants plus propres, plus vertueux, qui pourrait arriver dans les véhicules BYD dans les années qui viennent.
Aramco, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite réfléchit déjà à l'après-pétrole depuis très longtemps. D'accord? Donc, effectivement, ils investissent aujourd'hui, non pas dans le... Ah, ils continuent d'investir dans le pétrole, mais comme le coût de production d'un baril de pétrole en Arabie Saoudite, c'est 2 à 3 dollars, c'est assez facile, il n'y a pas beaucoup d'impôts. Mais en revanche, ils investissent énormément dans l'après. OK? Et l'après... C'est énormément de choses, hein, dont la mobilité électrique. Ils ont déjà investi dans Stellantis et ils vont effectivement investir dans BYD parce qu'ils...
Alors, les carburants synthétiques les intéressent, l'hydrogène aussi, ils investissent beaucoup là-dedans.
Oui, voilà, ils investissent tout azimut quand même. Et effectivement, dans la mobilité, ils savent, même s'ils n'ont pas un intérêt immédiat.
Ils savent qu'un jour ou l'autre, le pétrole, ce sera fini.
Voilà. Ils savent qu'il y aura un après-pétrole. Et comme ils sont intelligents, ils investissent dans l'après-pétrole.
Voilà, et BYD comme partenaire, pourquoi pas?
Oui, bon, l'infrastructure électrique en Arabie Saoudite, elle est presque ridicule. Hein. Ils se sont donné comme ambition de passer de, je crois qu'ils sont à 1% à 30% de part de voitures électriques dans leur parc d'ici 5 ans. Donc, il va y avoir plein d'acteurs qui vont être très contents d'y aller. Hein. Il y a beaucoup d'argent, il y a un potentiel. Tesla aussi y va. Il voit ses ventes chuter en Europe, mais pas qu'en Europe d'ailleurs, hein, aussi dans le reste du monde. Bah, c'est une occasion pour Tesla aussi, potentiellement. Il y a une vraie guerre entre BYD et Tesla en ce moment.
Ah oui.
Là, ils sentent bien... À la fois sur le plan technologique,
bien sûr,
où BYD reprend une avance notable,
c'est vrai.
Évidemment sur la guerre des prix. Parce qu'il y a un dumping des Chinois, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, qui attaque directement, frontalement, le modèle Tesla, qui, malgré le fait qu'il soit fabriqué en Chine, a du mal quand même à être compétitif face à BYD. Il y a plusieurs acteurs, même, je dirais, en France aujourd'hui, de gens qu'on rencontre qui disent j'hésite entre un BYD et une Tesla et qui se portent sur la BYD parce que technologiquement, elle tient vraiment la route.
Alors, c'est vrai qu'en Europe, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, elle coûte beaucoup plus cher avec les droits de douane, etc. Mais le jour où elles seront assemblées en Europe, ce qui devrait arriver bientôt, ça va être un concurrent féroce. C'est ça qui est intéressant.
Elles sont déjà, alors j'ai pas les tarifs exacts, mais il y a deux marques chinoises qui sont concurrentielles par rapport à certaines Tesla. Hein, et qui,
mais les prix pourraient être encore plus bas s'il n'y avait pas tous ces droits de douane, en fait. Et c'est malus, en quelque sorte. Fred, pour terminer.
C'est une émission très géopolitique ce soir, mais on se rend compte quand même que il n'y a pas une décision qui est prise en ce moment sans qu'on parle, en tout cas, de la guerre. Américano-chinoise, donc c'est quand même... En tout cas, on entre dans une nouvelle ère.
Mais c'est intéressant de voir un géant du pétrole comme Aramco se dire je vais m'associer avec le leader de l'électrique chinois. Quoi.
Surtout un Saoudien qui est censé être l'allié des États-Unis et qui met beaucoup d'argent chez le concurrent chinois. C'est ça qui est un peu...
Ouais.
Un peu ironique.
Oui, et je pense que Tesla devait être dans la shortlist, en fait. Je pense Aramco a dû... La différence, c'est que BYD fait de l'hybride rechargeable. Ouais. Donc, ils ont quand même un pied dans le thermique, alors que Tesla, le point de départ, c'était toujours l'électrique. Merci beaucoup à tous les trois, c'était super. Franchement, alors, on a évoqué pas mal de sujets. Évidemment, c'était très géopolitique, mais malgré tout, on a pu gratter quelques...
On adore quand c'est géopolitique.
Quelques thèmes passionnants. Et puis c'est l'actu. Hein, c'est l'actu qui porte Tech & Co, c'est comme ça. Merci beaucoup, Frédéric Krebs. À très vite, operating partner chez Palico et ancien DG d'Allociné. Merci aussi à Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de Telix Paris et de l'agence Brightness. Merci, Michel.
Merci, François.
Merci à Enguerrand Renaud, consultant chez Image7 et ancien journaliste au Figaro.
Et avant, fan de Polnareff.
Et fan de Polnareff. Bah écoutez, ce sera jeudi, donc
note-le. Oui. Hein. Bravo. Voilà.